Bonsoir et bienvenue dans les...
Bonsoir et bienvenue dans Féministe et vous sur Radio Campus 93.3. C'est l'émission d'Oser le féminisme 63 avec des drôles de dames. Ce soir, Karine, bonsoir.
Bonsoir.
Élise.
Bonsoir.
À la technique, Anne-Laure et Beryl. Bonsoir et merci les filles.
Bonsoir.
Alors,
bonsoir.
Nous allons donc consacrer cette émission au thème de la prostitution en lien avec les projets de loi qui vont bientôt être débattus à l'Assemblée nationale. Donc on commencera par un petit édito, une revue de presse sur le sujet par Karine. Et ensuite, donc, nous ferons une sorte de débat. Ce ne sera pas vraiment un débat parce qu'on est en fait toutes d'accord sur le sujet. Mais bon, je ferai l'avocat du diable et je présenterai certains arguments contre l'abolition de la prostitution. Donc pour qu'on puisse voir un petit peu quels sont les arguments qu'on peut avancer. Il y a des coups de gueule à pousser. Lise s'en charge.
Oui.
Mais aussi des coups de cœur. Et pour notre rubrique culture, le féminisme pour les nuls, Karine nous parlera d'un livre de Stoltenberg. Comment s'appelle ce livre ?
Refuser d'être un homme.
Ah, tout un programme. Et je parlerai pour ma part d'une citation. A woman needs a man like a fish needs a bicycle. Une femme a besoin d'un homme comme un poisson a besoin d'un vélo. Et donc, nous n'omettrons pas de vous dire les bons et les mauvais plans à Clermont ce mois-ci. Donc, debout, abolir la prostitution. La première fois que j'ai entendu parler d'abolir la prostitution, je me suis dit impossible. Ça me paraissait inscrit dans la nature humaine. Il y aurait toujours de la demande, donc toujours de l'offre. Et puis j'ai réfléchi. Abolition ne signifie pas éradication. Il y aura peut-être toujours des prostituées et toujours des clients pour aller voir les prostituées. Mais nous, en tant que citoyens, nous pouvons dire ce n'est pas normal d'acheter l'accès au corps d'un être humain. Ce n'est pas permis. Il y aura probablement toujours des meurtres sur Terre, mais le meurtre est puni par la loi. Et dans l'imaginaire collectif, tuer son prochain n'est pas permis. Pourquoi ne pas déclarer clairement « acheter des services sexuels est interdit » ? On ne peut pas se servir du corps de l'autre pour se faire plaisir sexuellement. Jusqu'ici, la loi était ambiguë. Seules les personnes prostituées pouvaient être poursuivies pour racolage, mais le client n'avait rien à craindre. Ce qui dérangeait, ce n'est pas leur souffrance, ce sont les nuisances dans le voisinage. Un trouble à l'ordre public, en somme. Que des milliers de femmes soient détruites intimement n'entrait pas en ligne de compte. J'utilise l'imparfait parce que j'espère que cet état de fait est passé. Tout comme on a décidé un jour d'abolir l'esclavage, de dire qu'aucun homme n'appartient à un autre, nous allons dire la sexualité des personnes humaines est inaliénable. Personne ne peut l'acheter. Et pour cela, une loi va pénaliser le client, lui faire voir ses responsabilités dans l'esclavage que représente la prostitution. Accepter la prostitution comme un fait acquis sans le remettre en cause, c'est nier la violence inouïe qui est faite aux femmes prostituées. C'est nier la valeur et la dignité de toutes les femmes et plus généralement de toutes les personnes qui en sont arrivées à devoir se prostituer. C'est accepter qu'un être humain puisse dominer l'autre et nier son humanité parce qu'il a de l'argent. Se servir de lui comme d'un objet sans tenir compte de son désir. Symboliquement, la prostitution consacre la domination des hommes sur les femmes. Abolir la prostitution en pénalisant le client, c'est affirmer que la société peut changer, progresser. Et au-delà de l'aspect symbolique, de façon pragmatique, c'est la seule façon d'aider les personnes en situation de prostitution à en sortir. C'est la seule façon d'empêcher le trafic d'êtres humains, honteusement toléré dans les pays réglementaristes, où les lois censées encadrer la prostitution ne font qu'enlever tout recours pour en atténuer la barbarie. En Espagne, en Allemagne, On peut se payer un steak de femme et personne ne peut rien dire. C'est légal. Elles l'ont choisi ? Quand on écoute la parole des prostituées, les vraies, pas celles qui essaient de se faire une place dans le showbiz, l'immense majorité choisirait une autre voie si elles pouvaient gagner leur vie autrement. Sauf pour une toute petite minorité, se prostituer n'est pas un choix. C'est une solution désespérée pour survivre, trouvée par une femme qui a déjà perdu toute conscience de sa valeur. La plupart des prostituées ont subi des violences pendant leur enfance ou leur adolescence. Ce n'est pas un hasard. Une première expérience de la violence a souvent pour conséquence une dissociation, une perte de repères. Son corps n'est déjà plus à soi, alors pourquoi ne pas le vendre ? Pourquoi ne pas tirer profit du viol de son intimité ? Pourquoi ne pas s'enfoncer dans une spirale autodestructrice, prendre des drogues pour tenir le coup, puisqu'aucune rédemption ne semble possible, puisqu'on pense être sali à jamais ? Réfléchissons à notre façon de voir les prostituées. La fille de joie est un mythe. Arrêtons de juger les prostituées et jugeons plutôt ceux qui les utilisent sans aucun respect pour la dignité humaine. Non, je ne parle pas seulement des proxénètes, hein, de ceux qui font du trafic de femmes. Je parle aussi des clients.
Merci Céline. Et maintenant, on écoute la Yegros, Viene de mi.
Camaradas de rebelión, florcita más.
Bien, et maintenant, nous allons écouter la revue de presse par Karine.
La prostitution de tout temps, puisqu'on le dit être le plus vieux métier du monde, a toujours fait couler beaucoup d'encre et usé beaucoup de salive entre ceux et celles qui le revendiquent comme un métier à part entière et l'aboutissement ultime du droit à disposer de son corps, je me vends si je veux, et ceux et celles qui démontrent que la prostitution est un système qui enferme la personne prostituée dans un cycle de violence physique et psychologique et qu'à ce titre, ce système doit être déconstruit pour être aboli. Alors évidemment, la presse n'est pas en reste dans ce débat. Et il y a de tout dans notre presse nationale. Cela va du racoleur « touche pas à ma pute », mais je laisse Lise vous en dire deux mots plus tard, en passant par la publication des 55 raisons de résister à la tentation dans le magazine Cosette. Eh bien, figurez-vous que sur l'un comme sur l'autre, les abolitionnistes que nous sommes à OLF et les réglementaristes que nous ne sommes pas étions d'accord sur la forme. Ces deux articles sont tombés bien bas dans la caricature autour de ce débat. Cosette a sorti le bazooka lourd d'un humour peu, voire pas du tout maîtrisé. Sous couvert de la bonne blague de potache, nous tombons dans les arcanes grinçantes de la provocation gratuite sans aucune analyse d'elle-même. C'est ainsi que nous allons trouver pêle-mêle dans ces 55 raisons des remarques banalisant le viol, je cite, parce que quitte à se taper une fille qui n'a pas envie, autant la violer, c'est moins cher. Avec un commentaire, mollo, on déconne. Merci de la précision. Des remarques sentant la transphobie, parce que vous n'êtes jamais sûr que cette fille qui vous excite tant n'en a pas une plus grosse que la vôtre, ami poète, bonsoir. Et j'en passe. Suite au tollé, le directeur de publication assume ses propos et explique que c'est de l'ironie par l'antiphrase, c'est-à-dire écrire l'exact contraire du message que l'on veut faire passer pour, via sa violence ou son absurdité, dénoncer les propos de ceux qui le pensent au premier degré. Maîtriser l'art de l'absurde, faut-il en avoir le talent et l'ingéniosité ? Il est à souligner cependant qu'une partie de la rédaction avait exprimé dans un communiqué à la fin de l'article son désaccord quant à la forme de l'article, plus que maladroit, contrevenant à l'éthique et aux valeurs de Cosette en stigmatisant les prostituées plus qu'en les défendant. Depuis, le torchon brûle au sein de la rédaction du magazine, puisque depuis le 8 novembre dernier, les salariés sont en grève. Dans un communiqué, ils dénoncent des conditions de travail délétères et une faiblesse de propositions d'organisation qui ne permettront pas de réaliser le prochain numéro. Cosette sombre, espérons qu'elle ne touchera pas le fond et que bien vite lui sera rendu son cap, celui d'un magazine qui réfléchit et qui fait réfléchir en restant plus féminine du cerveau que du capiton.
Merci Karine. Et maintenant, nous allons écouter Agnès Bille qui nous chante la complainte de la mère parfaite.
Dors mon poussin, dors mon bébé, ma petite fleur, ma petite fée. Déjà une dent, c'est formidable, mais qu'est-ce qu'il fout le marchand de sable? Allez demain, faut être en forme, maman travaille, elle se défonce. Tu sais la nuit, y'en a qui dorment, fais comme papa, regarde, il ronfle. Dodo, l'enfant d'eau, on joue à dormir tout de suite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Maman est là, faut pas pleurer, faut être un bébé bien élevé qui dort quand maman a sommeil et qui me casse pas les oreilles. Tu sais la nuit, c'est pas prudent, faut faire dodo, faut faire risette. C'est ce que font tous les enfants qui veulent pas passer par la fenêtre. Dodo, l'enfant d'eau, sinon je te déshérite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Allez ma puce, allez mon ange, c'est la troisième fois que je te change. Pitié pour une mère débutante, mais tu tiens de qui pour être si chiante? Non, non, maman, s'énerve pas, mais tu me prends le sein ou bien la tête? Moi, à ton âge, j'étais sympa, tu sais ce qu'elle dit, la mère parfaite. Dodo, l'enfant d'eau, espèce d'antiféministe. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. J'ai dit bientôt, alors maintenant, il faut pas faire mentir maman. Pas du tout pédagogique. Tu dors ou bien j'appelle les flics. C'est misérable, je sais plus quoi faire. Je vais tout de même pas te mettre en prison. Ou pire encore, avec ton père sur le canapé du salon. Dodo, l'enfant d'eau, relation mère-fille perfide. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. J'ai dit dodo, l'enfant d'eau, crise de nerfs, maman limite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant
l'enfant dormira bien. Elle dort. Mon ange. C'est mon portrait.
Débattons. Alors.
J'adore tes entrées en matière.
Non, mais. Quelquefois, il faut entrer dans la matière. La prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Qui sommes-nous, féministes, pour dire que nous allons changer ce qui existe depuis des millénaires?
Ah, bah, je vais me lancer. La prostitution, c'est pas un métier. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire un métier? C'est un métier à partir du moment où le code du travail est respecté. Alors, au jour d'aujourd'hui, la prostitution, il n'y a absolument rien qui existe dans le cadre du code du travail. Alors, on va me dire, c'est ce que les réglementaristes demandent, justement. C'est que on codifie la prostitution comme un métier comme un autre. Mais poussons la logique du métier.
Oui, poussons.
Si on estime que c'est un métier, eh bien, il va falloir faire des formations à ce métier. Mmh. Et des diplômes qualifiants. Moi, j'aimerais bien voir quelle école se lancera dans un BEP fellation ou sodomisation. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'aimerais savoir aujourd'hui quelles sont les petites filles et les petits garçons qui se projettent à faire ce métier plus tard. J'en connais pas. Et je connais peu de parents, voire des parents hypocrites, parce que j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Un monsieur qui me disait que si sa fille faisait le choix de se prostituer, ça ne le dérangerait pas. Il a même été plus loin. Il a même dit, oh, la prostitution, c'est comme l'homosexualité. Bonjour l'amalgame. Non, la prostitution, ce n'est pas comme l'homosexualité. L'homosexualité n'étant pas forcément un choix, d'ailleurs. Et simplement parce que l'homosexualité, personne ne vend son corps, alors que la prostitution, l'argent, évidemment, biaise la relation entre le client, et la personne en situation de prostitution.
Et je voulais rebondir sur ce que disait Karine. Si au bout du bout, la prostitution est un métier, il y a eu le cas en Allemagne, donc qui est un pays réglementariste, où à l'ANPE, quand on va pointer, on a les offres, ce qu'on appelle les offres raisonnables d'emploi. Et en France, donc on n'a pas le droit de refuser plus de 3 offres raisonnables d'emploi. Donc je retranspose ça en Allemagne. Une fille s'est vue proposer 3 postes d'escorte dans un bar. Et donc, 3 fois, elle a dit non, on lui a coupé ses aides sociales. Donc, au bout du bout, ça serait véritablement une catastrophe. Voilà pourquoi la prostitution ne peut pas être un métier.
Et pourtant, on entend des personnes qui se réclament de syndicats de travailleurs du sexe.
Ouais, le STRAS.
S'agit-il vraiment d'un syndicat, alors?
D'abord, c'est pas un syndicat comme on définit. C'est pareil, c'est comme l'histoire du code du travail. Un syndicat, il a une codification en France, ça veut dire des choses. D'abord, ça veut dire que il y a des personnes qui cotisent à ce syndicat en tant que travailleurs et qui demandent au syndicat de les défendre en tant que travailleurs. Alors, je rappelle à nouveau que la prostitution n'est pas un métier, donc que le STRAS n'est pas un syndicat comme la CGT, la CFDT, FO, etc. Et que, en plus, le STRAS aujourd'hui ne représente qu'une minorité. C'est-à-dire que le STRAS, depuis qu'on a le débat sur l'abolition de la prostitution, nous a souvent, voire tout le temps, mis dans les dents que nous parlions à la place des personnes en situation de prostitution. Et qu'on n'avait pas à parler à leur place, et que Morgane Merteuil, pour ne pas la citer, elle était en situation de prostitution et savait de quoi elle parlait. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a que Morgane Merteuil qui parle au nom du STRAS. Voilà, donc elle ne représente pas beaucoup de monde. Hein. Par contre, nous, en tant qu'abolitionnistes, on a fait un gros travail là, qui peut être suivi sur 30 jours pour l'abolition, où tous les jours, il y a un témoignage d'une personne qui est soit encore en situation de prostitution, soit qui est sortie du système prostitueur et qui témoigne de son parcours en tant que prostituée. Donc je pense que cette parole-là est autant valable, voire plus valable, que l'unique et les seules paroles de Morgane Merteuil qui, à mon sens, ne représentent pas grand-chose et en plus sur lesquelles on peut se demander quels sont ses intérêts propres à elle et aux Stras de défendre aussi ardemment la réglementation de la prostitution.
Bien. Et si on vous dit que la prostitution permet à certaines femmes de survivre et qu'en pénalisant les clients, on va leur enlever toute source de revenus?
C'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement?
Évidemment,
pour sortir de la prostitution, ouais, qui sont prévues par la loi.
Aujourd'hui, quand on parle de cette loi, on la caricature un petit peu, c'est-à-dire qu'on ne parle que de la pénalisation du client. Alors évidemment, c'est une symbolique très forte et très importante, c'est-à-dire que le client est responsable de la chaîne dans le système prostitueur. Il doit être responsabilisé sur sa pratique vis-à-vis des personnes en situation de prostitution. Mais la loi, elle ne prévoit pas que ça. Elle prévoit aussi qu'un fonds soit débloqué pour venir en accompagnement des personnes en situation de prostitution qui souhaitent sortir de ce système-là. Alors, à mon sens, c'est pas suffisant. D'ailleurs, le Haut Conseil à l'égalité a émis des recommandations sur la loi pour que ce sujet-là aille plus loin. Et puis ensuite, j'ai envie de dire que le combat pour l'abolition de la prostitution n'est pas un combat unique. C'est-à-dire qu'il s'inclut dans tous les combats féministes. Et notamment l'égalité salariale, l'égalité professionnelle, l'accès aux mêmes métiers pour les femmes et les hommes, qui fait qu'aujourd'hui, une femme n'est pas à choisir entre se prostituer ou récurer les toilettes bien crades, qui non plus n'est pas un métier qui fait rêver, même si je ne compare pas l'un avec l'autre. Mais il faut aujourd'hui se battre sur tous les fronts, et l'abolition est un combat parmi d'autres, qui fait qu'aujourd'hui, les femmes puissent faire des choix en toute dignité dans une société égalitaire.
Bien, certains objecteront que la prostitution, c'est un accord entre deux personnes. Si les deux personnes sont d'accord, pourquoi le gouvernement devrait s'en mêler? Pourquoi ce n'est pas simplement une affaire individuelle? Et voilà, est-ce que le gouvernement doit entrer dans les chambres à coucher, en fait?
On a dit la même chose sur les violences faites aux femmes.
Absolument.
C'est-à-dire quel est l'intérêt du politique de rentrer dans la sphère privée? On doit rentrer dans la sphère privée à partir du moment où la sphère privée constitue une violence et la prostitution est un système de violence. Alors on parle de consentement, moi je pense qu'on met pas le débat sur le bon thème, c'est-à-dire que c'est pas une question de consentement, c'est une question de désir. C'est ça qui rend difficile aujourd'hui, je pense, la question de l'abolition de la prostitution, c'est que je pense que ça nous renvoie un peu chacun et chacune face à nos propres sexualités. Et comment chacun et chacune, dans nos intimités et nos sphères privées, on gère nos propres sexualités entre consentement et désir. C'est-à-dire que je pense que ça nous est arrivé presque à toutes de devoir consentir à avoir un rapport sexuel avec son chéri, son mari,
partenaire.
Son partenaire, etc., sans en avoir forcément le désir. Parce qu'à un moment donné, on est fatigué, on n'a pas envie, mais on a envie de lui faire plaisir, alors on se force un peu. Bon. Ben ça doit nous questionner, et je pense que c'est ça aussi qui questionne sur la prostitution. Alors la différence entre notre sphère privée et la prostitution, c'est qu'une personne en situation de prostitution, elle n'a pas de désir pour aucun de ses clients, et qu'elle va subir entre 15 et 20 relations sexuelles imposées par l'argent. Et le fait que, comme le client est roi, hein, c'est ce qu'on nous bassine dans toute opération marketing, le client est roi à partir du moment où il paye, il est roi et il a le droit d'avoir ce qu'il veut. Donc il nie complètement le désir de la personne qu'il en fasse, il en fait simplement un objet sexuel. Et qu'on est face à un cycle de violence avec, évidemment, violence physique, violence psychologique et des viols à répétition, parce que je pense que l'on peut considérer ça comme des viols à répétition. Et que si on retirait ces questions-là du domaine de la prostitution, on parlerait de viols, d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel, et que l'argent permet d'érotiser cette sexualité-là, alors qu'elle n'a rien d'érotique.
Bien, mais... on va écouter une petite chanson, Le Tigre. Hein, c'est un collectif de filles qui ont des griffes, non, qui ont, qui sont bien énervés. Et ça s'appelle, alors, Decepticons,
c'est ça.
Vous êtes bien sur Radio Campus 93.3 et c'est Féministe et vous, l'émission des féministes du Puy-de-Dôme. OLF 63, c'est nous. Donc, nous étions en train de parler de la prostitution. Alors, si on dit que, en fait, mais il y a aussi des femmes qui sont clientes de prostituées. La prostitution, ça ne concerne pas que les hommes qui achètent les services de femmes. Il y a aussi des femmes qui achètent des hommes.
Bien sûr, c'est pour ça que je ne parle pas de prostituées et que je parle toujours de personnes en situation de prostitution. Pour ne pas outer justement les hommes qui aussi se prostituent. Après, dans les chiffres que l'on a, la prostitution aujourd'hui, elle est quand même à 90% féminine. Alors, j'ai un peu envie de dire aussi que c'est toujours la question. C'est comme la question des violences faites aux femmes, où à chaque fois qu'on parle des femmes victimes de violences conjugales, on va nous sortir les hommes victimes de violences conjugales et qu'il faut pas que l'arbre cache la forêt. Et sur la prostitution, c'est la même chose. Et puis, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les hommes qui sont en situation de prostitution, alors c'est pareil, le gigolo, c'est un peu un fantasme qui n'existe pas tant que ça, parce qu'il y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, c'est pas forcément des femmes. C'est-à-dire que la prostitution masculine, on est plus plutôt sur une prostitution homosexuelle que sur une prostitution masculine à l'attention des femmes. Et pour le coup, dans le cas de la prostitution homosexuelle, on est bien encore sur des rapports de domination d'un groupe sur un autre groupe, au même titre qu'un groupe homme sur le groupe femme, et au même titre, dans la communauté homosexuelle, un groupe dominant homme sur un groupe opprimé homme.
Effectivement, c'est toujours une minorité qui peut permettre d'éluder aussi le débat de la domination.
Oui, de brouiller les cartes sur la question.
Et que répondre à ceux qui vont dire que se prostituer, c'est un choix et que bon, certaines femmes peuvent choisir de gagner beaucoup plus en devenant escorte qu'en travaillant à l'usine, par exemple, que c'est leur choix d'utiliser leur corps, leur charme?
Alors, j'ai plusieurs arguments par rapport à la question du choix. D'abord, on est dans un état de droit et la République française, en tant qu'état de droit, se doit de protéger les plus fragiles et les plus opprimés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, par exemple, parce que c'est mon choix, demain, je peux décider de vendre un organe. Bon, c'est interdit par la loi. Parce que c'est mon choix, demain je peux décider de vendre de la drogue parce que ça rapporte vachement plus que n'importe quel autre métier et que du coup, je vends de la drogue, je deviens dealer. Et ben non, c'est interdit parce que ça met en danger d'autres personnes, etc. Donc on a réglementé et aujourd'hui c'est interdit de vendre de la drogue. Donc par rapport à l'état de droit, la République et l'État se doivent donc de protéger les plus faibles. Et quand on compile un petit peu tous les témoignages des personnes qui sont sorties du système prostitueur ou celles qui le sont encore, on voit bien que c'est un système qui crée de la violence et qui crée de la violence sur les plus faibles. Donc à la loi de protéger ses plus faibles. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose sur le choix, je dirais que les femmes feront des choix objectifs sur leur destin et sur leur vie le jour où nous serons vraiment dans une société égalitaire en droit entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, je vais utiliser un gros mot, mais tant pis, à domination masculine, où le patriarcat est toujours existant et qu'à partir de là, nous sommes éduqués dans cette société de domination masculine et les hommes et les femmes, et que nous avons des injonctions de genre, nous les femmes, qui nous disent que nous devons toujours nous sacrifier pour la sexualité de ces messieurs. Et la prostitution est une forme de sacrifice pour la sexualité de ces messieurs. Ça suffit. Bah, le jour où on nous arrêtera d'avoir cette injonction-là et qu'on nous parlera de notre désir à nous les femmes et de comment nous pouvons satisfaire nos désirs à nous les femmes, peut-être que nous pourrons faire des choix égalitaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Et donc, que répondre à ceux qui vont dire « mais il y a des femmes qui aiment le sexe et c'est pour ça qu'elles sont prostituées ». Est-ce que ce n'est pas une façon de nier justement ce désir-là ?
Ah, je pense qu'on peut aimer le sexe sans se prostituer. Voilà, c'est-à-dire... et au contraire, je pense que la libération sexuelle ne passe pas par la prostitution, parce que ce n'est pas... Abolir la prostitution n'est pas un discours moralisateur. Ça n'interdit pas le libertinage. Entre adultes qui se désirent l'un et l'autre, je dis bien qui se désirent l'un et l'autre et qui désirent la même chose l'un de l'autre sur une réciprocité et une égalité. La prostitution, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'égalité. Le client, il achète, il s'en fout du désir de la prostituée ou du prostitué. C'est pas son problème. Lui, il est là pour son propre désir et si il n'a pas ce qu'il veut, il forcera à avoir ce qu'il veut. Encore une fois, allez lire les différents témoignages de paroles de clients. Où vous verrez que ces messieurs, quand ils achètent, peu importe ce que la femme désire ou pas en face, lui, il a payé, il veut ce pourquoi il a payé.
Alors, on entend très souvent, et bon, c'est... Voilà, on l'entend très souvent. C'est assez affligeant, mais on l'entend très souvent, que la prostitution permet d'éviter les viols, et donc que si on empêche la prostitution, il y aura davantage de viols. Lise.
Alors ça, là-dessus, enfin, très clairement, les chiffres, il y a 75 000 viols en France. Il y a de la prostitution, mais 75 000, ce qui est un chiffre totalement mineur. Et dans ce chiffre-là, on ne comptabilise pas les personnes mineures. Si on comptabilisait, avec les rapports incestueux, on en serait à plus de 110 000 personnes. Donc évidemment, et le propre... Enfin voilà, c'est du viol, c'est une personne qui est non consentante. Là, dans le rapport de la prostitution, c'est le rapport est faussé parce qu'il y a de l'argent, mais c'est, enfin voilà, le client considère que la personne avec ce rapport, est consentante. Donc on ne peut pas mettre, enfin ça n'a juste rien à voir, quoi.
Alors, mais que dire à ceux qui pensent que les hommes vont se reporter sur les femmes vulnérables
Leur dire, éduquons les hommes. Commençons par éduquer les hommes, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est encore aujourd'hui dans une société où on apprend aux filles à ne pas se faire violer et où on n'apprend pas aux garçons à ne pas violer. Quand est-ce qu'on se mettra un jour à dire dans les cours d'éducation à la sexualité, dans les écoles, les collèges, etc., de parler des violences faites aux femmes et de dire aux garçons, vous faites partie de la classe homme. Quand une femme vous dit non, c'est non. Et c'est pas oui, peut-être. Quand est-ce qu'on arrêtera de permettre aux jeunes que la seule façon que les jeunes aujourd'hui puissent s'éduquer sexuellement, c'est la pornographie. Et que dans la pornographie, le fantasme des femmes majeur dans la pornographie, c'est de se faire violer. Parce qu'en fait, c'est trop bon. Voilà, je veux pas, mais force-moi, tu vas voir, je vais aimer. Non. Quand une femme dit non, c'est non. Donc commençons par éduquer ces messieurs et les garçons à comprendre qu'ils n'ont pas à violer et arrêtons de culpabiliser les filles en leur disant à toi d'apprendre à ne pas te faire violer. Non, nous avons le droit de vivre sur l'espace public, de nous habiller comme on veut sur l'espace public, de faire ce qui nous chante sur l'espace public, de se promener seul sur l'espace public. Ce n'est pas à nous de nous protéger contre les violeurs, c'est aux violeurs de ne pas violer.
On part toujours du principe, en fait, pour aller dans ton sens, que les hommes ont des besoins qui seraient irrépressibles et que... Voilà,
ah, tu vas du lourd, là, sur l'avocat du diable. T'as raison.
Il y a des gens qui vont dire ça. C'est sous-entendu dans leur... Alors, il faut démonter cette idée-là aussi.
Alors, très clairement, ça, là-dessus, il n'y a aucune, mais alors jamais eu... aucune étude scientifique qui prouve qu'un homme a plus besoin de sexe. Très clairement qu'une femme. Et que ça, c'est encore une construction sociale qu'on nous inculque depuis notre plus jeune âge en disant, un homme, il a vachement plus de désirs et c'est quelque chose, mais c'est pas du tout vrai. Et que du coup, les femmes nient leurs désirs et disent, je parle de sexe, on va en faire, quelqu'un de pas bien. Et c'est tout le débat autour du don Juan, entre guillemets, et de la salope, où une fille qui va avoir plusieurs aventures d'un soir, mais parce qu'elle le désire, parce qu'elle en a envie, etc., va passer pour la salope de service, entre guillemets, alors que l'homme qui aura plein de conquêtes, qui va aligner les filles d'un soir, lui, ça sera le don Juan. Et voilà, et c'est ces idées reçues, et je rejoins Karine sur la question de l'éducation, qui font totalement combattre.
Bien, alors il y aurait encore des tas d'arguments plus débiles les uns que les autres.
Venez à la bergamotée,
on n'a pas épuisé le sujet, on peut encore trouver des choses beaucoup plus grasses et puis on peut encore gratter. Donc, mais comme on a quand même un temps limité, on va écouter maintenant un bon coup de gueule.
Alors, à toi, Lise. Je tenais lors de cette émission à revenir sur la pétition qui a défrayé la chronique le 30 octobre dernier. Il s'agit du manifeste des 343 salauds. Alors là, tout de suite maintenant, salaud n'est pas le premier mot qui me vient en tête quand je pense aux 19 énergumènes qui ont signé cette pétition intitulée « Touche pas à ma pute ». Oui, vous m'avez bien entendu, ce n'est pas une blague, d'où mon coup de gueule de ce soir. Pour celles et ceux qui viendraient de la planète Mars et qui n'auraient pas entendu parler de l'affaire, voici quelques rappels de faits. Alors, au démarrage, on trouve Elisabeth Lévy, directrice de publication du magazine Causeur, qui souhaite lancer un manifeste contre l'abolition de la prostitution et plus particulièrement, attention, contre la pénalisation du client. Évidemment, certains plouks, admirez mesdames, comme je reste polie ce soir à cette heure de grande écoute.
Ah oui, tu peux dire connard.
Ouais, connard.
Ah, Mais je pense qu'on pourrait passer la nuit à faire une liste de noms d'oiseaux pour les définir. Bref. Donc je disais que 19 crétins se sont précipités pour signer cette pétition et non 343 comme annoncé. Nous pouvons citer entre autres Zemmour, chef de file du masculinisme Connard. En France. Et oui. L'avocat de DSK. Et oui, voilà.
Ah bah, il est concerné.
Voilà.
Il est surtout cerné.
Bedos fils, ou encore l'écrivain Bec Bédé, et j'en passe, hein, parce qu'il y a du lourd. Hein. Il pensait sans doute faire le buzz en singeant le manifeste des 343 et le slogan également de SOS Racisme. Pour rappel, le manifeste des 343, qui devient des 343 salopes à cause de Charlie Hebdo à l'époque, avait été ratifié par plus de 300 femmes qui réclamaient haut et fort le droit à disposer de leur corps et se battaient pour l'IVG. Voyez où on en est rendu 40 ans plus tard. Des misogynes reprennent un symbole d'émancipation pour prôner le droit à exploiter, ni plus ni moins, le corps de quelqu'un d'autre, comme l'a très justement souligné notre ministre Najat Vallaud-Belkacem. Ce manifeste est, selon moi, le symbole d'une société hyper-capitaliste où la domination masculine est de mise. Face aux tollés qui se sont élevés dans l'espace médiatique, certains signataires regrettent quelque peu leurs gestes. C'est le cas notamment de Nicolas Bedos. Mais bon, pas de pitié, fallait réfléchir avant de signer. Mais d'autres, par contre, persistent et signent. C'est le cas notamment de l'écrivain Frédéric Bec Bédé. Pour lui, le déclin de la France vient de la fermeture des bordels, je le cite. Et ouais, je suis sûre que je vous laisse rêveuse sur ce coup-là. Bref. Mais fort heureusement, de nombreux partis politiques, personnalités et organisations se sont élevés contre cette immondice, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont été nombreux à rédiger des communiqués de presse pour dénoncer cet acte honteux. Nous pouvons citer notamment le Parti socialiste, le Parti communiste, le Front de gauche, la Ligue des droits de l'homme, les effrontés et j'en passe, parce que la liste est longue. Oser le féminisme ne s'est pas fait attendre et a imaginé ce qu'aurait pu être ce manifeste en 1848, date de l'abolition de l'esclavage. La couverture de Causeur, renommée par l'occasion Connard, dévoile l'appel des 343 colons. Touche pas à mon esclave. Patrick Jean, président de l'association Zéro Macho, répond qu'ils sont, eux, 1881, et on peut retrouver tous les noms, à la suite de Hugo, Zola et Jaurès. En tant qu'hommes, ils considèrent la prostitution comme une violence, et ce, dans tous les cas. Le mouvement du Nid, quant à lui, signe un magnifique communiqué de presse intitulé « Le mouvement du Nid vous dit merci », dont voici un petit extrait. Merci à eux de dire tout fort ce que nous nous évertuons depuis tant d'années à montrer. La prostitution comme réponse à la misère sexuelle ? Non. Ces piliers du monde culturel et médiatique veulent juste continuer à exercer un pouvoir. Un combat pour la liberté sexuelle ? Non plus. Mais un front machiste et sexiste qui, même après l'affaire DSK, fait semblant de confondre libertinage et violence sexuelle. Bon. J'espère que je ne vous ai pas trop donné la nausée avec cette chronique. Pour finir, je souhaitais vous faire écouter la chanson de Linda Lemay, « Va rejoindre ta femme », qui dépeint avec justesse et vérité les conditions actuelles des prostituées.
Merci.
Va rejoindre ta femme maintenant que t'as eu ton plaisir, que j'ai eu mon argent. Allez, je vais pas te retenir, je sors de ton camion. T'as eu ton aventure, remonte ton pantalon, rattache ta ceinture, puis boucle l'autre ceinture, puis sois prudent, petit con, et boucle-la. Bien sûr, rendu à la maison, va rejoindre ton monde maintenant que t'as maté ma poitrine en te contre-fichant de ma mauvaise mine. Va prendre ta douche, monsieur, va faire le beau, le propre. J'imagine que c'est mieux que de faire la salope t'es en retard, mon vieux. Va rejoindre ta femme, dépêche. Je suis convaincue que tu veux que ta salade soit fraîche, mon cul. Ça, tu t'en fous, allez, pourvu que tu puisses me fouiller tout partout et me gifler les cuisses, pourvu que j'obisse pendant ces longues minutes, le temps que ça finisse, le temps de faire la pute. Va rejoindre ta douce maintenant que t'as craché tes sous.
93.3, c'est la fréquence de Radio Campus et c'est la fréquence du féminisme aujourd'hui, comme tous les deuxièmes mardis du mois. Et nous revenons donc dans cette émission avec une rubrique spéciale culture, le féminisme pour les nuls. Et donc, Karine va nous parler d'un livre.
Oui, je vais vous parler de « Refuser d'être d'un homme » par John Stoltenberg aux éditions Silebs dans la collection « Nouvelles questions féministes ». Depuis que je suis féministe et que j'échange avec d'autres féministes, se pose la question de la place des hommes dans nos combats. Pour faire l'égalité, il est nécessaire que femmes et hommes s'impliquent, bien évidemment. Mais comment ? Il s'agit d'abord pour chacun des deux sexes de conscientiser les inégalités persistantes que subissent encore de plein fouet les femmes. Ensuite, chacun et chacune de nous devons nous poser la question de comment nous appartenons à ce système et comment, de façon plus ou moins consciente, nous continuons à fournir les conditions implacables et immuables à la persistance de la domination masculine. Depuis les années 70, les féministes se sont interrogées sur les injonctions faites aux femmes pour devenir entre guillemets, de vraies femmes correspondant aux attentes de la société. Elles ont démontré que ces injonctions nous enferment dans une position infériorisante à la classe des hommes. Elles nous ont donné des outils permettant que les femmes puissent entamer le long et sinueux chemin de l'émancipation. Ne me libérez pas, je m'en charge. Depuis 40 ans, les droits des femmes ont bien avancé. Et pourtant, l'on sent bien que depuis quelque temps, ces avancées stagnent, voire régressent. Selon moi, c'est maintenant que les hommes conscients de ces inégalités et qui veulent s'engager dans nos combats féministes doivent aussi devenir des moteurs de réflexion sur leur place en tant qu'hommes dans la classe dominante des hommes. Pour tous ceux qui veulent contribuer à ces combats, lire « Refuser d'être un homme pour en finir avec la virilité » est une base incontournable. L'auteur parle en tant qu'homme et démontre que sa classe d'hommes construit sa virilité et sa masculinité en opposition à la classe des femmes, maintenant celle-ci dans leur position d'opprimée. Il remet ainsi en cause l'identité masculine et sa construction, démontrant quelles en sont ses conséquences, le viol, l'homophobie, la chosification sexuelle, la pornographie, les violences conjugales, le militarisme et le contrôle masculin de la procréation des femmes. Les hommes ont le choix, nous dit John Stoltenberg. Ils peuvent refuser l'identité masculine dominante. L'identité masculine en tant que rapport social doit être transformée. Ce livre distille la réflexion intelligente et ouvre la porte pour ceux qui accepteront de questionner leur masculinité à un changement basé sur le consentement, la réciprocité et le respect dans les relations entre les femmes et les hommes. Cet essai traduit les idées féministes dans une vision du monde que peuvent revendiquer et incarner sans fausse honte les hommes. Et je vais vous en lire un petit extrait. L'identité sexuelle masculine n'est pas un rôle. L'identité sexuelle masculine n'est pas un ensemble de traits anatomiques. L'identité sexuelle masculine, se croire masculin, croire qu'il existe un sexe masculin, être convaincu d'y appartenir, est une idée construite au plan politique. Tout cela signifie que la masculinité est une construction éthique. Nous la construisons par nos actes, par les choses que nous choisissons de faire et de ne pas faire, par des actes présentés comme des choses masculines à faire et que nous commettons. La plupart des choix que nous posons sont ceux d'actes qui actualisent notre idée de la masculinité et qui éloignent de façon durable le soupçon qu'en fait cette division de l'espèce humaine en deux classes de sexe séparées et distinctes et peut-être totalement spécieuses après tout. La plupart des choix que nous posons visent à nous dissocier de tout ce qui est étiqueté et stigmatisé comme féminin. La plupart des choix que nous posons visent à nous distinguer des femmes. La plupart des choix que nous posons créent notre identité de genre. Aussi longtemps que nous continuons à essayer d'agir de façon qui nous maintienne dans une identité d'homme, nous sommes condamnés à la paralysie, la culpabilité, la haine de soi et l'inertie. Aussi longtemps que nous tentons d'agir en tant qu'hommes pour continuer à être des hommes, pour continuer à contribuer à la construction sociale de cette entité qu'est la classe de sexe des hommes, nous condamnons les femmes à l'injustice. L'injustice inhérente à l'idée même qu'il existe deux sexes. L'identité sexuelle masculine est construite par les choix que nous faisons et les actions que nous posons. Nous ne pouvons continuer à la construire tout en nous donnant entièrement à l'action féministe. On ne peut pas à la fois rester attaché à son genre comme cœur de son identité et être de quelque utilité dans cette lutte. On doit transformer le cœur de son identité. Notre cœur doit préférer la justice au principe masculin.
C'est beau. Quant à moi...
C'est pas que beau, c'est intelligent.
Oui, aussi. Mais c'est bien écrit en plus, moi j'aime bien. Tu me le prêteras, hein ?
Oui.
Et donc, il y a des témoins. Et donc moi, j'ai choisi de vous parler dans notre rubrique culture d'une phrase avec laquelle j'ai une expérience personnelle en fait. Cette phrase est à l'origine en anglais. « A woman needs a man like a fish needs a bicycle. » Une femme a besoin d'un homme autant qu'un poisson a besoin d'un vélo. Alors, je l'ai entendu des centaines de fois dans la chanson du U2, Trying to Throw Your Arms Around the World. Donc, je l'avais dans ma tête. J'y faisais pas vraiment attention. Moi, je trouvais ça drôle. Et puis, j'avais dans ma mémoire des paroles de chanson. Et puis, un jour de cafard, pour me remettre d'une rupture amoureuse, je l'ai posté sur Facebook. C'était une façon de dire, voilà, je peux m'en remettre, hein, j'ai pas besoin d'un mec. Et à ma grande surprise, j'ai suscité par cette simple phrase les réactions d'un de mes amis qui se sentait offensé par elle. Comment ? Pourquoi ? Je me suis demandé, mais j'ai commencé à chercher, à vouloir en savoir plus. Alors j'ai cherché un petit peu et en fait cette phrase a été prononcée en 1970 par Irina Dunn, une féministe australienne. Et à la suite, c'est devenu un slogan repris par beaucoup de féministes. On l'a souvent attribué à une américaine, Gloria Steinem. En fait, non, ça serait Irina Dunn. Ça serait en fait une variation sur une phrase iconoclaste d'un philosophe américain. « A man needs God like a fish needs a bicycle. » Un homme a besoin de Dieu autant qu'un poisson a besoin d'un vélo. Et il s'avère que ces deux phrases ont le même pouvoir subversif. L'une par rapport à la religion toute puissante aux États-Unis et l'autre par rapport à nos façons de penser patriarcales parfaitement assimilées par la plupart des gens. Pourquoi mon ami a-t-il été choqué ? C'est parce que cette phrase remet en cause la toute-puissance masculine. Si les femmes n'ont pas besoin des hommes pour être des êtres complets et indépendants, alors quelle est la place des hommes dans cet ancien système ? Ça remet en cause le mythe de la complémentarité des sexes. Alors moi je dis non, et sans m'énerver, non, les sexes ne sont pas complémentaires. Cela reviendrait à dire que certaines qualités sont dévolues définitivement et immuablement aux hommes, celles qui sont valorisées, comme par exemple la force, l'autonomie, l'esprit de décision, l'audace, l'affirmation de soi... Et que d'autres qualités, celles qui restent, hein, sont attribuées aux femmes. Attention à l'autre, douceur, compréhension. Mais ça, c'est particulièrement pernicieux, parce que si les femmes sont forcément maternelles, douces et compréhensives, quelle place ont-elles sur l'échiquier politique, à la tête des grandes entreprises ? Autant leur dire de s'occuper des enfants, hein, de retourner, puisque c'est leur nature. Et hop, bobonne à la maison, hein. Non ! Une femme n'a pas besoin d'un homme pour être un être complet. C'est ce que nous avons voulu dire en faisant supprimer la mention « mademoiselle » sur les formulaires officiels. Personne n'a besoin de savoir si une femme est mariée ou pas. Avant, une femme célibataire était une ratée. Est-ce qu'on pense toujours ça aujourd'hui ? Bon, enfin bref. Lorsque cette idée « une femme a besoin d'un homme » comme un poisson a besoin d'un vélo, quand cette idée sera admise par tous, alors là, oui, on pourra dire... Oui, c'est vrai, une femme a besoin d'un homme, mais autant qu'un homme a besoin d'une femme, ou d'un autre homme, ou autant qu'une femme a besoin d'une femme, pas pour justifier son existence, simplement pour aimer et être aimée.
Merci beaucoup, Céline.
Et les bons plans et mauvais plans ?
Dans les bons plans, je vais y arriver, de l'agenda du mois de novembre, je voulais revenir sur les actions qui auront lieu autour du 25 novembre, qui est, pour rappel, la journée d'élimination des violences faites aux femmes. C'est pas que la Sainte-Catherine. Bref, revenons aux choses sérieuses. Petit zoom sur les actions organisées par Oser le Féminisme 63. Donc notamment, alors on vous attend tous, nombreux et nombreuses, mais dans la limite des places disponibles, le vendredi 22 novembre à la Bergamotée, café débat citoyen sur prostitution, une seule solution, l'abolition. Donc je répète, c'est vendredi 22 novembre à la Bergamotée à 19h30. On tenait particulièrement à remercier Nathalie Lacaze qui nous a accueillis sans hésitation. Le samedi 23 novembre, grand rassemblement sur la place de Jodes pour dénoncer les violences faites aux femmes à 14h30. Il faut que nous soyons des centaines à dénoncer les violences faites aux femmes. Et mercredi 27 novembre à 20h30 au cinéma Le Rio, ciné-débat autour du film Wajma. Alors, le 27 novembre, toutes et tous au Rio. Je voulais également revenir sur un cycle de conférences féministes qui aura lieu à Issoire. Il est organisé par l'association Le Bivouac des Facs, en partenariat avec le Conseil Général du Puy-de-Dôme, la Ville d'Issoire et la Délégation Départementale aux Droits des Femmes. Trois dates à retenir. Mercredi 13 novembre à 20h30 à l'Auditorium de la Tour de l'Horloge. Les objets ont-ils un genre ? Cette conférence sera présentée par Elisabeth Hanset, anthropologue. Jeudi 21 novembre à 20h30, à l'auditorium toujours de la Tour de l'Horloge, à Issoire, un féminisme religieux est-il possible ? Point d'interrogation. Conférence présentée par Béatrice Degasquet, qui est sociologue. Mercredi 27 novembre à 20h30 à la médiathèque René Char, à Issoire, domination masculine, quel prix à payer ? Conférence présentée par Christine Guionnet, qui est sociologue. L'accès à ces trois conférences est gratuit, mais réservation fortement conseillée au 04 73 55 35 59. Je répète, 04 73 55 35 59. Pour en savoir un peu plus, vous pouvez pianoter www.puydome.fr/culture-et-sport, rubrique sciences et société. Non seulement les sujets abordés ont l'air très intéressants, mais les trois expertes sont des femmes, ce qui a le mérite d'être souligné, car ce n'est pas toujours le cas. Je suis sûre que vous me voyez venir, mais je ne pouvais pas finir cette rubrique sans pousser un coup de gueule. Récemment, je suis tombée sur un petit fascicule édité par Clermont Communauté, qui recense près de 61 conférences qui se dérouleront à Clermont-Ferrand entre septembre et janvier prochain. Sur ces 61 conférences, seules 16 sont présentées par des femmes. Et oui, vous m'avez bien entendu, 16, j'ai compté. Ce qui fait moins d'un tiers, donc nous sommes extrêmement loin de la parité. Donc je profite de cette émission pour rappeler aux programmateurs de conférences auvergnats que oui messieurs, les expertes existent aussi.
Merci Lise. Et donc il est temps de se séparer jusqu'au deuxième mardi du mois de décembre sur Radio Campus 93.3. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et ne quittez pas l'antenne puisqu'on va écouter Sound of the Beast.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes achetées.
It's easier. Far away. Imagine this. Another way I know.